Oui, cette folie de Dieu est curieusement évoquée par Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 17 à 31. Mais il ne faudrait évidemment pas croire que cela signifierait qu'il y aurait en Dieu de la déraison ou de l'absurdité, mais je pense que cela est dit par rapport à notre petite logique purement humaine. Et l'on dit bien, c'est une chose relativement connue, qu'il y a effectivement en Dieu une vraie folie, en ce sens que sa parole, son commandement, son évangile sont radicalement différents de la logique de notre monde et que Dieu lui-même ne correspond pas tout à fait à ce que l'on attendrait de lui. Par exemple, dans la logique humaine, il semble logique de payer notre pain quand nous allons l'acheter, logique d'aimer ceux qui nous sont sympathiques, logique d'aimer nos proches et ceux qui nous apportent quelque chose. Mais voilà que l'évangile est fou, en un sens, parce qu'il nous montre un Dieu qui vit selon une logique totalement autre, qui est celle de la gratuité, celle du pardon, celle du service, celle de l'amour absolu, même pour son ennemi. Et ça, c'est bien quelque chose de fou, et pourtant ce n'est pas illogique. C'est une sagesse qui répond à une logique différente, à une conception qui n'est pas celle de notre monde, parce que la sagesse de notre monde, c'est la prévoyance, c'est le gain, c'est minimiser les risques, c'est la justice, de la rétribution, etc. Et il est vrai que le Christ lui-même, d'ailleurs, a vécu d'une façon folle, à contre-courant, quand au moment où tout le monde fait la fête, en mangeant et buvant, lui pleure. Il semble effectivement aussi qu'il fréquente les prostituées, les péagers. C'est un petit peu fou pour un champion de la religion. Et c'est aussi fou de mettre sa vie en danger pour des idées. Ce n'est pas raisonnable. Et pourtant, dans sa prédication, le Christ nous invite à des choses folles. Il nous invite à donner notre vie. Il nous invite à donner tout ce que nous avons pour le suivre et à donner sans rien attendre en retour. Oui, cela, c'est une forme de folie, et c'est peut-être la folie de Dieu qui est la mieux connue et la plus souvent prêchée. Pourtant, on peut voir cette folie de Dieu aussi dans d'autres domaines. J'aurais pu évoquer, mais c'est juste fait en passant, que Dieu, finalement, quand il crée, fait preuve d'une imagination absolument débordante, et il est totalement imprévisible. On peut en effet, rien que l'on, quand on regarde la création, on est stupéfait par la richesse, par l'exubérance. Quand on regarde la forme, les couleurs de tous ces animaux, de tout ce qui est fait dans le monde, personne n'aurait jamais pu imaginer des choses aussi extraordinaires, aussi renouvelées, aussi diverses et aussi variées. Et cette puissance, je dirais, de la création, cette imagination débordante de Dieu dans la création, c'est aussi quelque chose qui arrive dans notre vie à nous. Parce qu'en effet, je crois que l'intervention de Dieu dans notre existence est aussi quelque chose qui vient briser radicalement notre petite sagesse bourgeoise. Et quand Dieu arrive dans une vie, tout est possible. Dieu peut bouleverser des existences. Parce que nous avons, je crois, nous tous, une certaine idée de ce que devrait être notre vie, de ce qu'il serait raisonnable de faire, de ce que nous envisageons dans notre existence. Et celui qui est vraiment à l'écoute de la parole de Dieu, eh bien sa vie peut basculer. Il peut y avoir des choses neuves, inattendues, imprévues qui peuvent arriver. Ça, c'est bien connu, en particulier dans ce que nous appelons habituellement la vocation. Mais la vocation n'est pas réservée aux prêtres, aux pasteurs ou aux pompiers. Mais nous sommes tous appelés à des choses folles. Et l'on voit ainsi quelqu'un qui, par exemple, a économisé toute sa vie en se disant qu'il aurait une petite retraite bien plan-plan et pépère, tout à coup tout bazarder et partir comme missionnaire dans un pays lointain. L'on voit celui qui s'attendait à avoir un métier bien stable et bien régulier, tout à coup se lancer dans tout à fait autre chose, faire un angle droit dans sa vie parce qu'il a rencontré le Seigneur. Et que quand on rencontre le Seigneur, tout est possible. Et pourtant, si Dieu crée du neuf, et je le crois, Ça n'est pas si simple pour nous. Ça n'est pas si simple parce que, dans le fond, nous n'aimons pas trop le neuf. Et nous n'aimons pas trop ce qui change dans nos vies. Et c'est pourquoi, peut-être, nous avons tant de mal à accepter cette folie de Dieu. Parce que nous sommes tous attachés à notre petite sagesse. Et notre petite sagesse, c'est que, dans le fond, nous n'aimons pas l'imprévu. Nous voudrions que les choses restent toujours plus ou moins comme elles sont, ou tout au moins qu'elles restent raisonnables, qu'elles restent prévisibles et qu'elles restent maîtrisables. Et il est vrai que beaucoup d'entre nous vivons, en général, dans le pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Je suis heureux pour l'instant, je suis en bonne santé, pourvu que ça dure, pourvu que rien ne change. Et nous sommes tous un peu comme ça. Il y a en nous une peur de l'avenir, une peur de l'imprévu, une peur du nouveau. Et cela explique en grande partie le succès des voyants et autres astrologues, n'est-ce pas, de tous ces discours de charlatans qui essayent de dire à l'homme « Mais non, il n'y a pas de nouveau, il n'y a rien d'imprévu, vous voyez, tout cela est réglé et tout cela répond à une sorte de sagesse, une sorte de règle compréhensible et rationnelle et raisonnable. » Mais voilà, c'est une supercherie. C'est une supercherie parce que d'abord, Dieu, justement, est folie. Et d'autre part, parce que, avant même l'action de Dieu dans le monde, je crois que le monde lui-même, en un sens, est un petit peu fou. Le monde est un peu fou parce que le cours du monde, si on y réfléchit bien, ne répond pas, finalement, seulement à des sortes de règles de causes et de conséquences. Le monde lui-même est en grande partie indéterminé et sans arrêt surprenant. Et la société des hommes, le comportement des humains, est encore plus indéterminé, imprévisible. Et dans ce monde, indépendamment même de Dieu, ce qui est étonnant, c'est que tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Alors bien sûr, quand il y a un événement important dans le monde, il y a toujours des gens après coup pour dire « c'était prévisible et c'est normal, c'est parce que ceci et parce que cela ». Mais tous ces gens, tous ces spécialistes ne disent que c'était prévisible qu'après coup. Et voilà la chose étonnante, c'est que tous les spécialistes ne sont jamais capables de prédire finalement ce qui va se passer dans le monde. La tempête de 99, aucun météorologue ne l'avait dit. Il arrive une grande tempête qui balaye la France, qui détruit un tiers des arbres en France ou je ne sais quoi, qui arrache des choses et des ceci et des cela. Personne ne s'y attendait. Le 11 septembre, c'est absolument extraordinaire. On vit là tranquillement, tout à coup, deux avions arrivent, paf, mettent par terre ces deux tours de New York, ces deux symboles de la grandeur invincible de l'Amérique. Et en une heure, plus rien. Extraordinaire. Personne ne s'y attendait. C'est arrivé comme ça. C'est de la folie. Et le lendemain, George Bush arrive et il déclare la guerre à l'Irak qui n'y était pour rien. Est-ce que ce n'est pas non plus encore des continuations de folie? Et quand on parle aussi du communisme, tout à coup, du jour au lendemain, le mur tombe, le communisme tombe, personne n'a vu venir l'affaire. Du jour au lendemain, plus de communisme. On aurait pu penser avant que ça pouvait durer encore des siècles et des siècles. Sans compter les nombreux krachs boursiers, les crises de ceci et les crises de cela. Oui, tout cela est absolument étonnant. Dans les dernières élections, allez, encore un exemple. Jean-Marie Le Pen se retrouve au deuxième tour des élections, personne n'y avait pensé. Alors après, on dit « Ah mais oui, c'est normal, c'est parce que ceci, mais non, mais personne n'avait eu l'idée. » Chirac élu avec plus de 80% des voix. Ce monde, cette société, sont vraiment fous. Et plus ça va et plus je pense que finalement, dans ce monde, tout peut arriver. Et il arrive des choses absolument extraordinaires, des choses qui sont comme ça. Et nous devons admettre que dans le fond, tout peut arriver dans ce monde. Demain, que va-t-il arriver? Probablement encore des choses extraordinaires, imprévisibles, que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Dans ma petite vie à moi, demain, je peux rencontrer quelqu'un qui va changer ma vie. Peut-être. Mais peut-être que demain ou après-demain, je vais devenir célèbre parce que tout à coup, quelqu'un va trouver formidable une chose que j'ai dite ou faite. Mais peut-être que demain, au contraire, j'aurai un accident et que je vais mourir. C'est comme ça. Peut-être que demain, on va m'annoncer que j'ai un cancer. Mais peut-être que demain, on va m'annoncer que le cancer qu'on m'avait dit est guéri. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Et sans cesse, je vois que ma vie n'est faite que d'une succession de, je dirais, de bouleversements, de renversements, d'événements que je n'avais pas prévus, que je ne maîtrise pas et qui arrivent. Alors, je peux, bien sûr, moi-même, j'essaye tant que possible de verrouiller un peu les choses. J'essaye de prévoir et d'organiser. Et je crois que c'est bien. Et pourtant, je relativise un peu aussi tout cela. Parce que quand je regarde dans mon passé, même si je ne regarde que les choses qui ont produit le meilleur de ma vie, eh bien, dans la plupart des cas, ce sont des événements que je n'avais pas prévus. Et des choses qui me sont arrivées comme ça. Et tout à coup, il s'est avéré que ma vie a été construite de chance, mais extraordinaire, inimaginable, et ma vie est faite de tout cela. Et souvent, ce que je redoutais par-dessus tout est quand même arrivé, et je me dis, ben, finalement, c'est une chance que cela soit arrivé. Ce que je ne souhaitais pas est arrivé, et souvent, je m'en félicite. Alors donc, que dire de cela ? Eh bien, simplement un constat. Que ça me plaise ou non, le monde est fou. Localement, je peux essayer de maîtriser un peu, mais globalement, tout peut arriver. Alors, comment réagir ? Eh bien, je crois que la chose la plus intelligente à l'égard de ce constat, c'est d'abord de le savoir. Et finalement, peut-être de ne pas nécessairement chercher à lutter contre. Il faut l'accepter et d'une certaine manière peut-être même en jouer. C'est-à-dire ne pas avoir peur de l'avenir, mais plutôt d'une certaine façon l'attendre, l'espérer et savoir en jouir. Parce que d'abord, en effet, ce peut être une forme de bonne nouvelle. En ce sens que même si tout va mal dans ma vie, tout peut toujours changer. Par conséquent, il ne faut jamais désespérer et jamais dire « là, je suis dans une situation, je suis foutu, je n'ai plus d'espoir ». Tout peut arriver dans la vie, tout espoir est possible, tout peut arriver, tout peut changer, tout peut tourner dans l'autre sens. Et par conséquent, je pense que cette folie du monde peut être pour nous tous une grande chance. Le tout, c'est de savoir accueillir cette nouveauté extraordinaire, quand elle arrivera, et ne pas la rejeter sous prétexte que la chance de ma vie qui va m'arriver demain arrivera par définition sous un visage que je n'attendais pas. Et en effet, peut-être qu'il est bon de savoir que le neuf et le meilleur peut arriver à tout moment, mais encore faut-il savoir le reconnaître. Et par ailleurs, que comme tout est possible, eh bien même le mal peut toujours être transformé en bien. C'est ça la folie de la croix. C'est cette action créatrice de Dieu qui arrive à récupérer quelque chose qui, aux yeux de notre sagesse, pourrait sembler un échec, un mal et une catastrophe, la mort du Christ. Ce garçon de 33 ans, plein d'avenir, rejeté, condamné, mort. Et voilà la folie de la croix. C'est que même ça, finalement, ça peut devenir une source de vie et d'espérance. Et aujourd'hui, nous mettons des croix dans nos églises pour signifier notre foi, notre espérance et notre foi dans la vie. Et ça, c'est aussi le fait que, voyez-vous, les disciples, au début, ont été désespérés quand le Christ est mort, parce qu'ils n'attendaient absolument pas que la bonne nouvelle de Dieu passe par là. Eux, ils voyaient les choses autrement. Et il leur a fallu plusieurs jours pour qu'ils découvrent que finalement, même la mort du Christ pouvait être une bonne nouvelle pour eux. Parce qu'elle démontrait que la mort, que le Christ, était plus puissant que sa mort physique. Et elle démontrait que même si on tue Jésus, finalement, on ne tue pas la dynamique qu'il avait mise en œuvre dans sa vie et dans sa prédication. Personnellement, et je suis un peu hérétique sur ce point, je ne crois pas que Dieu ait mis 3 jours à ressusciter Jésus. Je crois que Jésus a transcendé la mort, il a traversé la mort, sa vie était plus forte que la mort physique, mais que ce sont les disciples qui ont mis 3 jours à découvrir qu'il était ressuscité. Et en effet, personne ne sait à quel moment Jésus est ressuscité. Mais ils ne l'ont découvert que le dimanche matin. Et toute cette nouveauté qui peut arriver dans notre vie, tous ces événements imprévisibles, incalculables, je crois, nous font voir que le jeu de notre existence n'est pas distribué une fois pour toutes. Comme si l'on pouvait dire, ben vous avez un mauvais jeu, vous n'avez pas de chance, mes pauvres amis. Pour vous, c'est mal parti. Mais sans arrêt, le jeu est redistribué. Sans arrêt, de nouveau, tout est possible. De nouveau, une vie nouvelle est possible. Il n'y a aucun déterminisme dans nos existences. Sans arrêt, de nouveaux possibles s'ouvrent, d'autres se ferment, c'est vrai aussi. Et donc, nous devons sans cesse nous réadapter, parce que la vie n'est jamais la même, mais elle est toujours neuve. Et le tout est de ne pas déplorer les atouts que nous n'avons plus, mais de savoir reconnaître les nouveaux qui nous sont arrivés depuis hier. Cette nouveauté de vie, donc je crois qu'il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est là aussi que la créativité est possible. La répétition du même, c'est synonyme de mort. Et du même, il ne peut rien sortir de neuf. Mais la vie, au contraire, c'est la création. La vie, c'est le neuf, c'est l'extraordinaire, c'est le changement. Ce changement, il ne peut venir que s'il y a des bouleversements inattendus. Et il est donc essentiel de savoir reconnaître ces bouleversements pour savoir les accueillir, savoir les utiliser et savoir ne pas les rejeter par crainte ou par conservatisme, faute de quoi il ne pourrait rien y avoir de neuf en nous. Heureux donc celui qui sait se remettre en cause, celui qui sait accueillir l'inattendu, celui qui sait changer ses projets, celui qui sait se convertir, celui qui sait explorer une terre qu'il ne connaissait pas, celui qui sait aller là où ses parents, ou ses grands-parents, ou ses ancêtres n'étaient jamais allés. Alors bien sûr, devant ce divers pur des événements qui nous tombent dessus, il nous faut quand même savoir mettre un peu d'ordre. Nous devons essayer de rationaliser tout cela, savoir les utiliser, d'en tirer le bien. Parce que nous ne sommes quand même pas appelés à être comme des bouchons sur le sommet des vagues, ballottés à gauche et à droite, suivant les événements du monde et suivant ce qui arrive. Le but de l'humain n'est pas de se laisser balloter par les événements, mais de savoir utiliser ces événements pour aller toujours dans une direction qui est celle qu'il a choisie, c'est-à-dire la direction que nous propose l'Évangile. Parce qu'en effet, si le monde seulement était fou, et s'il n'y avait que le monde, alors on pourrait craindre. Parce que ce serait un jour une chance, un jour une malchance. Un jour du plus, un jour du moins. Un jour un bouleversement positif, et un jour un bouleversement négatif. Parce qu'en effet, le hasard qui grandement, je crois, dirige le monde, le hasard n'est pas créateur. Et c'est là, je crois, que notre foi en Dieu est essentielle. Parce que croire en Dieu, c'est croire que justement, le bien et le mal ne sont pas symétriques. Parce que je sais qu'avec Dieu, je peux toujours utiliser pour le bien même ce qui me semblait à première vue mauvais. Et c'est là la bonne nouvelle de Pâques. C'est que si Dieu a su transformer la mort du Christ en source de vie et d'espérance, alors je veux bien croire qu'avec lui, peut-être que je pourrais transformer n'importe lequel de mes petits imprévus qui me semblent négatifs en surgissement d'une nouveauté créatrice. Et ça, c'est le sens de ce verset de Matthieu 19, verset 26, quand... Je ne sais plus, c'est Jésus ou d'ailleurs où c'est Jésus qui le dit à propos du jeune homme riche. Nos Bibles disent « tout est possible à Dieu », ce que je ne crois pas personnellement. Mais en fait, il n'est pas écrit ça. Il est écrit littéralement « tout est possible avec Dieu ». Et je pense effectivement que tout est possible avec Dieu. Parce que le monde, dans sa folie, nous fournit sans arrêt des possibilités de changement et de nouveauté. Et tout ce qui arrive dans notre vie, finalement, est bon, en ce sens que cela nous empêche de nous encroûter, ça nous ouvre des voies nouvelles. Et avec Dieu, tout est possible. Je crois qu'avec Dieu, nous pouvons faire en sorte que chacune de ces voies puisse devenir un chemin vers plus d'amour, plus de lumière, plus de témoignages et plus de vraie vie. Parce qu'en effet, il faut comprendre que vivre, ce n'est pas répéter le même, ce n'est pas rester dans une sorte de bastion pour essayer de préserver ses acquis en vivant dans la peur et en priant Dieu en disant « pourvu que ça dure, que rien ne change ». Notre bonheur ne doit pas être comme une sorte de ville assiégée par les malheurs, par le changement et par la nouveauté, parce que notre vie est nouveauté. La vie est changement. Dieu sans cesse fait toute chose nouvelle, et nous pouvons accéder à la nouvelle création de Dieu et avoir toute chose nouvelle en nous, et nous ne pouvons pas faire cela et en même temps désirer que rien ne change et que tout reste toujours comme c'était. Et ainsi, notre confiance en Dieu doit justement nous inciter à détruire nos remparts, à enlever nos tours d'ivoire, à enlever nos barrières et à nous rendre simplement nus et vulnérables dans ce monde, en disant « je n'ai pas peur du monde parce que je sais qu'avec Dieu, le monde ne peut rien me faire de mal ». Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit Paul dans son Épître aux Romains, chapitre 8. Parce qu'avec Dieu, toute chose peut être transformée en bien et en bon. Et vivre, tout à l'heure je vous disais que ce n'était pas être comme un bouchon ballotté par les événements. Si je reprends cette parabole de la mer et de la vague, je dirais que vivre, c'est surfer sur les événements. Vivre, c'est utiliser les vagues utilement pour avancer, pour aller ailleurs, pour aller plus loin et pour ne jamais rester au même endroit. C'est utiliser l'imprévu, les bouleversements, et pour cela, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas s'arrêter. Le surfeur qui s'arrête coule. Il faut avancer. Il ne faut pas vouloir revenir en arrière. Celui qui s'arrête sur une vague est submergé par elle. Mais au contraire, chaque bouleversement de la vie est une énergie extraordinaire, comme une vague qui peut nous projeter ailleurs, dans un ailleurs que nous ne connaissons pas, mais dont je n'ai pas peur, parce que je sais que je suis dans la main de Dieu. Et que cette main de Dieu n'est pas une main qui va tout organiser pour moi, en disant « il va lui arriver ci, lui arriver ça », mais que cette main de Dieu, c'est une main plus forte que ces événements bizarres du monde, et qui peut récupérer toute chose pour le bien. Personnellement, je ne pense pas que Dieu ait voulu la mort du Christ. La mort du Christ est un échec. Dieu envoie son Fils pour qu'on l'écoute. Les hommes ne l'écoutent pas, ils le tuent. Ça, c'est un échec. C'est mal et c'est mauvais. Et la providence de Dieu, c'est qu'il ne se décourage pas. Il se dit « bon, je change mes plans. Mon Fils est mort. Eh bien, je vais récupérer ça d'une autre manière. » Et tout à coup, il va faire comprendre, effectivement, aux hommes que le Christ, même mort physiquement, dans le fond, est toujours présent, et qu'aujourd'hui, si nous sommes là pour évoquer cette résurrection, c'est que nous croyons, non pas que Jésus ait été ressuscité pendant quelques jours et qu'il soit apparu à X ou Y, ce dont je m'importe peu, mais ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, le Christ est vivant. Et en effet, ce message de Pâques, il ne faut pas s'y tromper. Il ne faudrait pas dire « le message de Pâques est le message de la résurrection ». Ce serait que Jésus est mort, et puis finalement, Dieu, en quelque sorte, revient un peu en arrière et le rend vivant encore pendant quelques jours, il apparaît à machin et à truc. Ce n'est pas ça la résurrection. La résurrection du Christ ne faut pas la confondre avec les apparitions. La résurrection du Christ, c'est qu'aujourd'hui, Christ est vivant. Mais comment Jésus est-il vivant parmi vous aujourd'hui ? Est-ce que vous croyez qu'il va venir ici en chair et en os parler, prendre la parole et vous serrer la main ? Bien sûr que non. C'est-à-dire que Jésus ne ressuscite pas comme il a vécu avant. La résurrection du Christ n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas une annulation de sa mort. C'est une autre manière de vivre. Et Jésus est ressuscité parce qu'il vit autrement, d'une autre manière. Ce n'est pas le même corps, ce n'est pas une annulation de sa mort, c'est autre chose. Et c'est cela la façon avec laquelle Dieu crée, c'est qu'il accepte la mort du Christ et il en profite de s'en servir comme d'une sorte de tremplin pour aller vers une autre dimension. Et donc tous ces événements sur lesquels nous surfons sans arrêt, ces événements imprévus, nous devons non pas les craindre, mais les guetter et savoir les reconnaître. Parce que la plus grande des chances de ma vie, elle est peut-être tout à l'heure, peut-être demain, mais peut-être que je ne vais pas la voir passer. J'ai tellement peur de l'imprévu et du neuf. Et c'est comme ça que, finalement, en réfléchissant à ce thème, je me suis dit, peut-être est-ce le sens de cette parabole du Christ que je n'avais jamais comprise. Quand il dit « Le Fils de l'homme viendra comme un voleur au moment de la nuit, au moment où vous ne l'attendez pas. Pourquoi ?» Eh bien oui, parce que la plus grande chance de ma vie, ce moment où Dieu va peut-être pouvoir transformer ma vie, il va venir dans un événement que je n'attendais pas. Et justement même peut-être la nuit, dans un événement que je redoute, parce que la nuit, j'ai peur. Et c'est pourquoi vivre, c'est avoir à la fois cette confiance en Dieu et cette disponibilité extraordinaire de dire « j'accueille, je reçois et je suis en veille, toujours prêt à accueillir ce qui va arriver dans une disponibilité qui fera en sorte que je ne laisserai pas passer le Fils de l'homme qui viendra peut-être déguisé comme un voleur. » Et notre foi, c'est bien cela, c'est que Dieu peut transformer tout mal en bien. La folie de Dieu, c'est simplement qu'il utilise des canaux inattendus pour faire sa propre création. La croix, qui est ce scandale, qui est cette chose étonnante, ce pauvre air pendu, rejeté de tous, humilié, qui devient le cœur même de notre espérance. Dieu n'agit pas comme on pourrait le penser. Dieu n'empêche pas le Christ de mourir. Mais il montre que même mort, il peut encore être porteur et actif et vivant spirituellement parmi nous. Si Dieu a su transformer cette horreur du rejet de son Fils en espérance, alors il peut bien transformer toutes les petites morts de ma vie, tous mes petits deuils en source de vie et d'espérance. Oui, la résurrection montre comment Dieu arrive à réutiliser, je dirais, la folie du monde. C'est pourquoi cette résurrection du Christ est tellement importante pour chacun de nous, parce qu'elle dit notre propre résurrection. Et elle ne nous dit pas que notre corps est immortel, mais qu'il y a une espérance, qu'aucune situation n'est désespérée, car notre vie dépasse sa simple dimension biologique. La mort du Christ est englobée dans une sagesse encore plus grande. La folie du monde est transcendée par une sagesse de Dieu qui est encore plus grande. Et cette prétendue faiblesse scandaleuse du Fils de Dieu qui meurt lamentablement est transcendée par une force de Dieu qui est une force douce, qui n'est pas une force brutale d'action dans le monde, mais qui est une force extraordinaire qui sait se glisser en dessous des événements pour les transformer en bien. La folie de la croix, elle est dans cette action créatrice de Dieu qui récupère un terrible mal, l'exécution sauvage d'un garçon de 33 ans, pour en faire un élan de vie nouvelle pour l'humanité tout entière, un élan de foi, d'espérance et d'amour qui dure éternellement. Amen.